Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Jocelyne Moussa Pondé à la présentation.
Près de 300 000 Congolais déplacés au Burundi vivent dans des conditions précaires. Le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires d'Uvira, Fizi, Mwenga et Tombwe lance un cri de détresse au gouvernement congolais et alerte sur le manque d'assistance humanitaire dans plusieurs sites d'accueil. Route des rocades, 65 personnes affectées par le projet ont été indemnisées hier mercredi à Kinshasa lors de la troisième vague de paiement lancée par le gouvernement congolais. Reconstruction de la cohésion sociale au Sud Kivu après la guerre. Didier Kingoya, coordinateur du réseau des associations communautaires des jeunes, est notre invité ce matin. Il analyse les pistes du vivre ensemble. Bonjour à tous. Avant de développer les informations annoncées au sommaire, une question se pose. L'AFC M23 aurait-il commencé à quitter la ville d'Uvira ou pas? Plusieurs sources affirment que des troupes de la rébellion seraient en train de se diriger vers la périphérie de la ville d'Uvira. Radio Okapi poursuit le suivi de l'évolution de la situation. Des nouvelles informations seront présentées dans les prochaines éditions. Pour sa part, le ministre de la Communication et des Médias appelle à la vigilance sur son compte X. Patrick Muyaya se demande quel crédit accorder à cette manœuvre unilatérale du M23. Nous attendons le retrait effectif des troupes rwandaises de toutes les parties occupées de notre territoire, dit-il. Et dans ce contexte, les conditions humanitaires restent tout aussi préoccupantes. En tout cas, le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires de Vira, de Fizi et de Mwenga et Tombwe lance un cri de détresse à l'endroit du gouvernement congolais concernant les conditions difficiles dans lesquelles vivent près de 300 000 déplacés congolais au Burundi. Selon le responsable de cette structure, Adi Biamassou, ces personnes installées dans les sites de Gatumba Barrière ainsi que dans les camps de transit de Chibitoke, Gisenyi et Kaburandwa vivent dans des conditions déplorables. Il s'agit notamment du manque de toilettes, de l'accès limité aux soins de santé et de l'absence d'une assistance humanitaire organisée, a dit Biamassou et joint au téléphone par Onlin Tibonera.
Toutes les populations de ces entités sont actuellement dispersées dans les pays voisins, le Burundi. Il y a ceux qui sont dans les communes de Gatumba, ils sont encore dans les stades, ils passent la nuit au bel étoile, donc ils n'ont pas de moyens, pas d'assistance. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté notre alerte et une demande d'assistance auprès des autorités pour voir comment ils peuvent assister ces populations qui sont actuellement en difficulté. Il y a des principaux problèmes que nous avons identifiés. Il y a insuffisance d'hébergement, il y a l'accès limité aux soins de santé, l'absence d'une assistance humanitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons multiplié nos recommandations d'urgence en égard à ceux qui procèdent pour que qu'il soit une ouverture urgente de la frontière de Gatumba-Kamvivira en fait de faciliter les retours volontaires des déplacés qui souhaitent regagner leurs milieux respectifs et d'autres localités.
La fermeture du trafic sur le lac Tanganyika entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika ainsi que la fermeture des aérodromes de Manono et des Nyonzou figurent parmi les 13 mesures fortes adoptées par le gouvernement provincial du Tanganyika. Ces décisions visent à empêcher toute infiltration de l'AFC M23. Elles ont été prises au cours d'un conseil provincial de sécurité extraordinaire tenu en début de semaine. On écoute le porte-parole du gouvernement provincial du Tanganyika, Raphaël Pungwe, dans ses propos recueilli par Paul Amunanga.
Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire de Nyunzu, tous les deux appartenant à la société MMR. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemie. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province.
Parlons également de cette découverte macabre. Mardi, à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, une dizaine de corps ont été retrouvés dans la brousse. Certains identifiés comme des motocyclistes. Cette situation plonge la ville frontalière dans la consternation. Les autorités locales saisies multiplient les réunions et élaborent des stratégies pour identifier les auteurs de ces actes odieux et renforcer la sécurité. Suivez ce reportage de Jean Gandou, rendu par Alain Irung.
C'est un motocycliste de Kasumbalesa qui a alerté la police après cette découverte choquante. Selon son témoignage, peu avant midi, deux hommes se sont présentés comme des clients et lui ont demandé de les transporter à environ 10 km de la frontière sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa. Arrivés dans une brousse où se trouvent des constructions inachevées, ils l'ont agressé et tenté de l'étrangler avec une corde. La victime raconte que quatre autres individus sont sortis de la brousse pour le tabasser. Pensant l'avoir tué, ses agresseurs ont pris la fuite avec sa moto. Après plusieurs heures, il a réussi à se libérer et en reprenant ses esprits, a découvert plusieurs corps éparpillés dans la zone. Pris de panique, il a alerté la police et ses collègues motocyclistes. Les forces de l'ordre, accompagnées du maire de Kasumbalesa, se sont rendues sur place pour constater les faits. Certains corps ont été identifiés grâce aux pièces d'identité retrouvées sur eux. La majorité serrée des motocyclistes bien connus dans la ville. Le maire André Kapampa appelle les motocyclistes au calme et à la vigilance, tandis que les services compétents poursuivent leurs enquêtes pour retrouver les auteurs de ces tueries.
En Ituri, le chef de la chefferie de Badjere, dans le territoire de Djougou, appelle la population de Boulé et des villages environnants à se désolidariser des jeunes de son entité qui ont pris les armes contre la République. Deda Kondo l'a dit hier mercredi à Djaïba, une semaine après des combats entre les rebelles de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga avec les FRDC à Boula. Des affrontements qui ont occasionné le déplacement des milliers de personnes vers les villages jugés sécurisés. C'est L'autorité coutumière appelle ses administrés à la culture de la paix et plaide à la réconciliation entre les communautés locales pour le développement de leur entité. Le chef de la chefferie de Baema Badjere est au micro de Martial Kizabiamongo.
Les jeunes doivent d'abord dénoncer d'abord tous les suspects dans nos villages et les jeunes doivent aussi se désolidariser des mouvements négatifs parce que ça ne peut pas ramener la paix dans les milieux. Et c'est un message qui concerne la population en général au niveau de la chefferie pour que la paix revienne. Si quelqu'un détient l'arme, il doit comprendre que l'arme n'est pas quelque chose qu'une population civile doit détenir. Celui qui détient l'arme, il doit d'abord rendre l'arme à qui des droits, je dirais, parce que ce n'est pas un civil qui détient l'arme. L'arme, c'est pour les militaires. Et encore plus, la relation civilo-militaire aussi, elle n'est pas bonne parce que, vous savez, il y a eu l'affrontement et les militaires sont encore dans les opérations et ça joue aussi sur la population et surtout la jeunesse dans les milieux.
Autre nouvelle, 65 personnes impactées par le projet de route des rocades ont reçu de la commission interministérielle d'indemnisation leur paiement hier mercredi à Kinshasa. Cette opération marque ainsi la troisième vague d'indemnisation depuis le lancement de ce processus par le gouvernement congolais. Plus de détails avec Blaise Ndongala.
Au bureau de la commission, sous la présidence de son coordonnateur Georges Kochi Guiméa, chaque requérant se présente avec son titre de propriété qu'il remet en échange de l'ordre de paiement et du procès verbal signé par les deux parties lors des négociations. Pour les cas d'indemnisation partielle, le coordonnateur de cette commission mixte a assuré que l'État congolais s'engage à octroyer des nouveaux titres de propriété aux personnes concernées. Une annonce rassurante pour les personnes affectées, dont certaines ont vu leurs biens partiellement touchés par les travaux de construction des routes et rocades. Depuis le lancement de ces processus d'indemnisation, un peu plus de 300 personnes impactées par ces projets ont déjà été payées par les gouvernements congolais. Lors de la deuxième phase de cette opération, au moins 200 dossiers avaient été clôturés sur les 3442 recensés. Les projets des routes des rocades, long de plus de 70 km, financés dans le cadre du projet sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8 sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux.
Modèle de financement des infrastructures provinciales par le partenariat province-secteur privé Cas du Nord Kivu, c'est le thème développé par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors des conférences annuelles du service public organisées par le ministère de la fonction publique. Ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku a présenté les méthodes qui ont permis la modernisation de la voirie des villes de Goma, Butembo et Beni. Ce progrès a été rendu possible grâce à un partenariat public-privé reposant sur deux mécanismes, la création d'une taxe conventionnelle sur les produits pétroliers et la affectation des attributaires pour l'entretien des routes. À cette occasion, il a invité d'autres provinces, notamment Kinshasa, à s'inspirer de ce modèle qui a contribué au développement du Nord Kivu. On écoute les explications de Julien Paluku, dont ses propos recueillis par Alain Rung.
À ma qualité de gouverneur, j'avais mobilisé la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on commence à construire les routes parce que c'était les utilisateurs. Il y a des routes sur lesquelles on faisait 2 semaines, 3 semaines. Et quand vous avez une marchandise qui fait 3 semaines, si elle est périssable, elle périt dans les conteneurs et finalement c'est la perte. Alors je les avais sensibilisés pour qu'on crée ensemble un consortium de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent les gestionnaires et moi je deviens la mission de contrôle. Et nous avions créé une parafiscalité de 20 francs sur les litres de carburant pour que ces 20 francs nous aident à construire les routes. Et la province n'était pas, elle, gestionnaire de ces fonds-là. La province a délégué la gestion des fonds aux opérateurs économiques et avec ça, nous avons levé des millions de dollars au niveau de la banque parce que la banque savait qu'elle devait se faire rembourser par ce que nous collections. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de la République. Grâce à ce partenariat public-privé, on est passé par la route nationale numéro 2. Quand vous quittez Goma jusqu'à Beni, c'est 400 km. On faisait 3 semaines, mais avec ce que nous avions fait, la route est carrossable. Et on commençait à quitter Goma à 6h du matin et à 14h on était à Beni sur 350 km.
L'actualité, c'est aussi cette demande du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, au gouvernement congolais pour la revalorisation de la profession enseignante et le respect des accords longtemps négligés. Selon le syndicat, cela passe notamment par la mise en application du statut particulier du personnel enseignant dès les débuts du premier trimestre de l'année 2026 et la suppression de la zone salariale. Ces recommandations ont été formulées au terme d'une réunion du comité provincial tenu à Matadi hier mercredi, consacré à l'évaluation des accords conclus entre le banc syndical et le gouvernement. On écoute un extrait des revendications du SIECO lu par son secrétaire provincial intérimaire, Georges Doumbi, au micro de Nana Purishmambou.
Le SIECO Congo central vient recommander au gouvernement central ce qui suit. La concrétisation de la nouvelle politique salariale initiée par le chef de l'État dès le début du premier trimestre 2026. La poursuite de la mécanisation de NI et le paiement de NP longtemps souffert. Les respects du calendrier des payes fustigeant ainsi des retenues abusives dans le salaire mensuel du personnel enseignant par la banque Tembe, Matadi et autres. Outre, le syndicat des enseignants du Congo sollicite au gouvernement de la République démocratique du Congo la création des succursales de la Banque centrale du Congo, BCC, en sigle faisant l'office de banque payeuse pour des agents et fonctionnaires de l'État afin d'éviter toutes formes de retenue par le banque commerciale payeuse.
Restons dans le secteur de l'enseignement. Selon le calendrier scolaire, le 17 décembre marque la fin du premier trimestre dans toutes les écoles du pays. Au Maniema, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 félicite les acteurs éducatifs ainsi que les établissements de sa juridiction pour le respect de ce calendrier. Cependant, Moutou Balingene et Jacques invite les parents à bien encadrer leurs enfants durant la période des vacances et à veiller à ce qu'ils ne soient pas détournés de leurs études en ce moment de festivités. Moutou Balingene Jacques est au micro de Florence Kizalunga.
Des enfants sont en vacances à partir d'aujourd'hui. C'est bien puisque nous avons terminé le trimestre sans difficulté. Les enfants ont étudié sans problème, les enseignants ont fait leur travail et c'était la proclamation surtout pour les enfants de l'école primaire. Et aujourd'hui, ils sont en vacances. C'est une bonne chose. Ces enfants, s'ils peuvent me suivre, je pense que le conseil que je pouvais leur donner, c'est de ne pas se laisser entraîner par les gens qui ne sont pas élèves. Parce qu'en fait, nous savons qu'à la maison, il y a des gens qui ne sont pas élèves et qui entraînent toujours les élèves dans des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ce que je vais demander aux parents, c'est d'encadrer les enfants à la maison. Ce n'est pas puisque on est en vacances que l'enfant ne peut pas lire ses notes. L'enfant doit lire. Et au besoin, cet enfant reste à la maison pour aider les parents. Ce n'est pas vadrouiller, commencer à compter les maisons dans les quartiers. Non. L'enfant doit aider les parents. Il doit s'appliquer à la maison aussi. Il doit s'appliquer comme il le faisait à l'école. Et éviter la mauvaise compagnie. Puisque c'est pendant cette période de fête que souvent nous trouvons des enfants qui déraillent. Et surtout nos jeunes filles. Que les filles ne se laissent pas entraîner dans des choses viles qui n'ont pas de sens.
Actualité internationale. Donald Trump promet à l'Amérique un boom économique comme le monde n'en a jamais connu. Le président américain a jugé hier mercredi que les États-Unis étaient prêts pour un boom économique comme le monde n'en a jamais connu dans un discours depuis la Maison-Blanche, alors que les sondages montrent un mécontentement croissant des Américains sur sa politique économique. Le président américain a par ailleurs largement utilisé cette allocution télévisée à une heure de grande écoute pour accabler son prédécesseur démocrate Joe Biden et dénoncer l'immigration. Donald Trump a par ailleurs annoncé que des militaires américains allaient recevoir des chèques d'un montant de 1 776 $ dans ce discours destiné à vanter le bilan de sa première année de pouvoir. Ce montant fait référence à la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis qui célébreront l'an prochain leurs 250 ans d'existence.
L'invité.
Comment reconstruire la cohésion sociale et le vivre ensemble au Sud Kivu après un climat de méfiance généralisée créée par la guerre? La question a été au centre des réflexions des acteurs de la société civile du Sud Kivu lors d'un forum d'échange de 2 jours tenu à Bukavu du lundi 15 au mardi 16 décembre. Notre invité Didier Kigonia, coordinateur du réseau des associations communautaires des jeunes du Sud Kivu, s'entretient à ce sujet avec Jean Kassami.
Didier Kigonia, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Kassami.
Une rencontre avec les organisations de la société civile pour parler paix. Pour quelle motivation?
Au fait, il s'agit d'un forum d'échange sur le processus de réconciliation et de paix. Un espace dédié aux réflexions sur le processus de réconciliation et la paix dans la province du Sud Kivu. Une province en proie de l'insécurité et des violences depuis 30 ans déjà.
Pourquoi la thématique sur la paix, sachant que les bruits des bottes se font toujours entendre dans la province?
Les guerres et les conflits qui a eu dans notre pays ont eu des effets néfastes sur la cohésion sociale, les vivre ensemble. Donc, la réconciliation, c'est d'actualité au vu du contexte de notre province pour le moment. Ce cycle de violence qu'a connu notre pays depuis des décennies a affecté tous les secteurs de la vie publique. Il y a des communautés qui se trouvent en situation de déplacement, qui ont du mal à cohabiter avec les communautés d'accueil. Il y a nombreuses communautés qui se sont déplacées et au retour, ils ont trouvé peut-être même le tissu économique de leur communauté a été détruit. Il est temps que les peuples commencent à parler paix et qu'on amorce un processus de réconciliation en attendant que les autres processus qui sont amorcés au niveau pays, au niveau régional et au niveau international soient mis en place. Nous sommes en train de récolter les avis des communautés pour que ces avis intègrent aussi les processus de paix qui seront amorcés au niveau national et au niveau régional.
Par quelle méthodologie pensez-vous que ces idées récoltées pourront-elles contribuer à consolider la paix les moments venus?
Le comble, c'est qu'il y a des processus de paix qui sont conçus dans des hôtels 5 étoiles qui ne tiennent pas compte des réalités ou des contextes des populations qui sont considérés comme des victimes de ces atrocités. Maintenant, à notre niveau, nous sommes en train de consulter les communautés parce que le forum ici regroupe à la fois les acteurs de la société civile du niveau provincial, mais il y a aussi d'autres qui sont venus des territoires. On voudrait que les besoins des communautés en matière de consolidation de la paix alimentent la feuille de route qui sera adoptée au niveau régional et au niveau national. On ne voudrait pas nous donner encore des prêts-à-porter.
Au cours de débats, plusieurs acteurs ont insisté sur la nécessité de pouvoir instaurer une commission vérité et réconciliation. Une commission vérité et réconciliation au niveau de la province du Sud Kivu pourrait-elle faire bouger les lignes?
La réconciliation, ce n'est pas un résultat seulement pour cet atelier, mais un processus que nous voulons pour tous les pays. Donc, on voit que il y a des atrocités qui ont été commises sur les communautés. Il y a manque de cohésion et de cohabitation entre les communautés. On voudrait mettre en place une commission vérité réconciliation qui va travailler sur les crimes du passé, qui va parler de la vérité. On veut documenter sur ce qui a été fait et pour que cela ne se répète plus et pour qu'on amorce maintenant un processus de pacification et de développement dans les jours à venir. Nous sommes en train de nous dire, en attendant que le pouvoir central puisse s'organiser, qu'est-ce que nous on fait d'abord comme communauté? Qu'est-ce que nous faisons avec ces femmes rurales? Qu'est-ce que nous faisons avec ces jeunes qui ont perdu tout leur avenir à cause de ces atrocités? Est-ce que le processus de paix qui sera mis en place tiendra compte des réalités et des besoins de ces jeunes et de ces femmes? C'est ce que nous sommes en train d'élaborer, un cahier de charges qui sera soumis aux parties prenantes pour que les besoins de ces communautés intègrent le processus de paix qui est déjà déclenché dans notre pays.
Les acteurs de la société civile demandent également la mise sur pied d'une commission vérité-réconciliation. Les deux sont complémentaires.
Nous sommes en train de travailler de manière coordonnée. Il n'y aura pas de chevauchement.
Didier Kigonya, merci.
C'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Alain Hirung et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci de l'avoir suivi et de le réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.